Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans mensaux proposée par Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Cette semaine, 6 films simplement, 6 films. Et la semaine prochaine, il y aura peut-être même moins. Mais après, en novembre, ça va être la folie furieuse. Alors, les 6 films à l'affiche, les 6 nouveautés à l'affiche sur les écrans mensaux, Eugénie Grandet, Cette musique ne joue pour personne, Flag Day, Les Intranquilles, Guermantes et Candyman. Voilà, donc c'est les 6 films dont nous allons parler dans Clap aujourd'hui. Et nous allons commencer notre semaine par un titre que l'on entend dans le film Les Intranquilles. C'est un titre des années 80, ça. Bernard Lavilliers et Nicoletta, Idée Noire.
Ouais, effectivement.
C'est ça, hein, c'est les années 80.
Années 80, hein. Oui.
D'accord. Alors là, on va vous lancer le titre tout de suite.
Il se lève, c'est l'heure, il écrase son égo. Dans sa tasse de café, il éteint la stéréo. Éteint le lampadaire, éteint le plafonnier. Éteint dans la cuisine, mais la sécurité. Couloir, une porte, un lit, c'est la nuit. Quelques pistes pour dormir, je sais plus où je suis. Un store noir, une porte, un lit, c'est l'ennui. Rien à faire pour l'amour, mais ne dis pas toujours.
Où es-tu quand tu es dans mes bras? Que fais-tu? Est-ce que tu penses à moi? D'où viens-tu?
Des mauvais rêves, je suis sur un mauvais câble. Dans la paranoïa, pas de marchand de sable. Je vois en panoramique, urgent et désirant. Une blonde décapitée dans sa décapotable. Un cauchemar, highway, road trip, fumée noire. Une vente vorace tue au fond d'un couloir. J'en sors pas, cafard, bad trip. Idée noire, avalée par l'espace au fond d'un entonnoir. Je veux m'enfuir
quand tu es dans mes bras.
Je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir
quand tu es dans mes bras.
Je veux m'enfuir.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Tu ne penses qu'à toi.
Je veux m'enfuir.
Tout seul tu finiras.
Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux m'enfuir, je veux partir. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je veux de l'amour, du plaisir, de la folie, du désir. Je veux pleurer, je veux rire. Je m'enfuis
quand tu es dans mes bras.
Je m'enfuis.
Est-ce que tu rêves de moi?
Je veux m'enfuir.
Bernard Lavilliers, Nicoletta, Idée Noire, et ce titre on l'entend dans le film Les Intranquilles. Les Intranquilles, on en parle dans un petit quart d'heure. On va commencer notre semaine cinématographique par Eugénie Grandet. Eugénie Grandet, le film vous est proposé au cinéaste, et ma foi, il a droit à 2 séances par jour. C'est un film de Marc Duguin. Marc Duguin, réalisateur, scénariste, né en 57, c'est aussi un romancier, Marc Duguin. En 2009, il réalise pour le cinéma Une exécution ordinaire avec André Dussolier et Marina Hans, très bon film d'ailleurs. 2011, La bonté des femmes avec Caroline Siol et André Dussolier. 2013, La malédiction d'Edgar sur Edgar Hoover avec Brian Cox, Anthony Higgins. Et 2017, L'échange des princesses avec Lambert Wilson et Olivier Gourmet. Un excellent film d'ailleurs, cet échange des princesses. C'est l'auteur d'un livre qui s'appelait La Chambre des officiers, qui avait été adapté au cinéma également. Je ne me rappelle plus d'ailleurs par qui, peu importe. Eugénie Grandet, 1h45. Félix Grandet règne en maître dans sa modeste maison de Saumur, où sa femme et sa fille Eugénie mènent une existence sans distraction. D'une avarice extraordinaire, il ne voit pas d'un bon œil les beaux partis qui se pressent pour demander la main de sa fille. Rien ne doit entamer la fortune colossale qu'il cache à tous. L'arrivée soudaine du neveu de Grandet, un dandy parisien orphelin et ruiné, bouleverse la vie de la jeune fille. L'amour et la générosité d'Eugénie à l'égard de son cousin va plonger le père Grandet dans une rage sans limite. Confronté à sa fille, il sera plus que jamais prêt à tout sacrifier sur l'autel du profit, même sa propre famille. Alors, Jean-Claude Raspienjas, là en Lacroix, qu'en pense-t-il ? Voilà ce qu'il déclare. Marc Duguin réussit avec une économie de moyens, une admirable et crépusculaire adaptation du roman de Balzac. Olivier Delcroix dans Le Figaro, Marc Duguin vient mettre son grain de sel dans le bouillon balzacien. Mais il le fait avec finesse, précision et avec un trio d'acteurs hors pair, Olivier Gourmet, Joséphine Japy et Valérie Bonneton. Jean-Luc Verhoeven dans Le Point. Duguin privilégie un tempo ralenti pour illustrer cette étude de mœurs soignée dans la direction des acteurs, les décors naturels, les costumes, la lumière avec de superbes plans tournés à la bougie. Et Jean-Luc Verhoeven conclut son article par le terme « une réussite ». Olivier de Bruyne dans Les Échos, il est sur la même longueur d'onde. Si les choix de Marc Duguin irriteront peut-être quelques puristes, son Eugénie Grandet, mise en scène avec sobriété et remarquablement mise en lumière, rappelle, s'il en était besoin, combien l'œuvre de Balzac, non contente de décrire son époque avec une implacable lucidité, entretient aussi de puissantes correspondances avec la nôtre. Barbara Théâtre, le journal du dimanche. Face à Olivier Gourmet, magistral de rugosité, Joséphine Japy donne toute sa délicatesse à cette version très féministe du roman de Balzac, portée par une mise en scène très picturale et d'une belle austérité. Laurent Gian dans Télé 7 jours, l'écrivain et cinéaste Marc Duguin donne un ton moderne et féministe à son adaptation, à la fois émouvant récit d'émancipation et drame féroce sur la cupidité. Muriel Joudet dans Le Monde, c'est elle qui n'a pas aimé du tout le film. On peine à trouver ce qui ici fait cinéma. Tout y est purement illustratif. Eugénie Grandet, proposé par les cinéastes. C'est un film que j'ai vu et donc Marc Duguin revisite librement. D'ailleurs, c'est marqué dès le départ. Hein. Ce n'est pas une adaptation absolument fidèle. C'est une façon libre de revisiter Eugénie Grandet dans une version féministe. Bon, ça m'a paru un petit peu anachronique par moment, mais enfin, pourquoi pas, hein, après tout. Hein. Alors, même si le film reste quand même fidèle à l'histoire, hein, dans ses grandes lignes, on n'a pas fait ça en le transportant au 20e ou 21e siècle, on n'en a pas fait une comédie musicale. Non, ça reste bien l'Eugénie Grandet du début du 19e siècle. Donc, c'est l'histoire d'Eugénie Grandet, une jeune fille vivant quasi recluse dans sa province, sous l'emprise d'un père avaricieux en diable et d'une mère aimante, mais bien effacée. Un jour, elle, qui en rêve tant, pense trouver l'amour en la personne de son cousin, mais le père Grandet ne peut se résoudre à cette union avec un jeune homme failli, ruiné, qu'il n'entend pas renflouer du tout, grâce au mariage avec sa fille et surtout à la dot de sa fille. Fille qu'il considère d'ailleurs comme un bien qu'il ne veut absolument pas céder, quelle que soit la personne qui en fera la demande. La reconstitution d'époque est superbe, elle est magnifiée par le travail sur la lumière, notamment des intérieurs éclairés à la bougie, comme l'ont souligné plusieurs critiques. Alors Olivier Gourmet hérite d'un rôle à sa mesure avec le portrait de cet homme odieux, odieux, tyrannique, cupide, mais cachant une immense fortune accumulée à coups de coups tordus, hein, tout simplement, sans scrupules, contraignant cependant sa maisonnée à vivre dans le dénuement le plus complet et s'estimant trahi, surtout par sa fille, quand il découvre la générosité dont elle a pu faire part envers l'homme qu'elle aime. Voilà, donc le père Grandet, c'est le personnage qui me paraît, moi, le personnage principal du film. Et puis, il y a Camille Japy qui joue Eugénie. Et Camille Japy, eh bien, c'est une lumineuse Eugénie Grandet qui fait tout pour s'émanciper à sa façon de la tutelle paternelle pour décider de vivre à sa façon, mais ça c'est juste à la fin du film, quand le père est mort en quelque sorte. Un film qui m'a un petit peu laissé sur ma faim, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que cette façon à tout prix de faire à la fin du film du génie Grandet un précurseur ou une précurseuse, je ne sais pas comment on doit dire, des finis, ça m'a un petit peu gêné. Bon, je trouvais que c'était un petit peu tordre le cou à la réalité de l'époque. Il suffisait, me semble-t-il, de rester fidèle à l'œuvre pour comprendre la place de la femme dans la société du début du 19e siècle, et même de tout le 19e siècle, et la famille asservie aux hommes, père ou époux, exigeant d'elle avant tout une soumission totale. Bon, alors évidemment, à la fin, elle s'émancipe, oui, à sa façon, pourquoi pas. Mais bon, il ne me semble pas que ce soit vraiment ça dans la version balzacienne du roman. Voilà, Eugénie Grandet, le film est proposé au cinéaste avec deux séances par jour. Cette fois-ci, on quitte le cinéaste et on va au Méga CGR et au Pathé Quinconce pour le film Cette musique ne joue pour personne. C'est un film français de Samuel Benchetrit. Samuel Benchetrit, c'est un acteur, c'est un réalisateur et scénariste. Il est né en 73. Il a commencé comme beaucoup par des courts-métrages et puis un premier long-métrage en 2002 qui était très drôle, ça s'appelait Janice et John, avec François Cluzet, Marie Trintignant et Christophe Lambert. 2008, J'ai toujours rêvé d'être un gangster avec Anna Mouglalis, et Edouard Baird. 2011, Chez Gino avec José Garcia, Anna Mouglalis et Samuel Benchetrit lui-même. 2014, Un voyage avec Céline Salette et Anna Mouglalis. 2015, Asphalte avec Isabelle Huppert et Gustave Kervern. Et 2017, je ne l'ai pas vu celui-là, Chien avec Vincent Macaigne, Vanessa Paradis, Bouly Lanners. Les trois, on les retrouve dans le film Cette musique ne joue pour personne, proposé, je le répète, par le Méga CGR et par le Pathé Quinconce. La durée du film, 1h47. Dans une ville portuaire, des êtres isolés, habitués à la violence, vont soudain voir leur vie bouleversée par le théâtre, la poésie et l'art, et leur quotidien transformé par l'amour. Voilà, ça c'est une vague idée de ce qui se passe dans le film, c'est le thème principal. Alors, Caroline Vier dans 20 minutes, la tendresse du réalisateur pour ses personnages de paumés, sauvés par l'art, le théâtre ou la poésie, affleure entre deux éclats de rire. Michel Levieux, L'Humanité, pour son 7e opus, Cette musique ne joue pour personne. Samuel Benchetrit filme des êtres cabossés qui décident de monter une comédie musicale. Enfin, ils font pas que ça, hein. c'est un ou deux qui décident de monter une comédie musicale. Les autres, ils décident de faire autre chose. Par sa maîtrise de la direction d'acteur et de la mise en scène, il nous offre une œuvre au ton absurde et tendre, dans laquelle joue une joyeuse bande de comédiens de talent. Ah, je ne les ai pas cités, mais il y a par exemple François Damiens, Ramzi Bedia, Vanessa Paradis, Gustave Kervern, Vincent Macaigne, Joé Star, voilà. Adrien Gombeau, Les échos entre absurde et poésie, Samuel Benchetrit, réussit un drôle de film de troupe en régalant ses comédiens de dialogues ahurissants et de situations lunaires. Isabelle Magnier dans Télé 7 jours, cette comédie chorale, joyeusement dépressive, doit beaucoup à sa troupe de comédiens formidables. Jacques Mandelbaum dans Le Monde, une fantaisie épurée et laconique, accrochée à la lumière froide du Nord, à laquelle on prend plaisir d'oublier un peu la raison de toute chose. Thierry Chasse dans Première, c'est barré, c'est poétique, du pur Benchetrit. Stéphane Joby dans Le Journal du Dimanche, un film choral au tableau inégaux mais qui dessine un monde tendre dans lequel l'art et l'amour triomphent de la violence. Olivier Delcroix, Le Figaro, c'est foutraque, artificiel et prétentieux, tout juste sent-on passer l'ennui. Et Renaud Baronian dans Le Parisien, la comédie au casting de luxe de Samuel Benchetrit tourne vite au ridicule et gâche le talent de la plupart de ses comédiens. Cette musique ne joue pour personne, donc c'est proposé par le Méga CGR et par le Pathé Quinconce. Oui. Alors il faut savoir que Méga CGR, ils ne sont pas hyper enchantés d'avoir le film, parce que ce n'est pas du tout leur clientèle pour aller pour ce film-là, mais enfin bon, c'est comme ça. Hein. Ils vont se rattraper avec James Bond la semaine prochaine. Donc là, cette musique ne joue pour personne, ce sont les aventures d'une bande de type mi-docker, mi-truand. Enfin, docker, ils travaillent sur le port. Est-ce qu'ils sont vraiment dockers? Enfin bon, peu importe. Mi-truand. Un film à l'humour décalé et neurasthénique, avec un gros casting qui prend l'allure un petit peu d'un film à sketch. Alors, les histoires ne s'enchaînent pas comme dans un sketch, elles s'entrelacent. Mais, comme souvent en pareil cas, elles ne sont pas toutes de même niveau, elles sont, disons, inégales. Alors, je retiendrai surtout celle de la comédie musicale sur Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, où l'un des hommes de main du chef de la bande désingue, par exemple, tous les potentiels acteurs pour le rôle de Sartre, car il ne supporte pas qu'on approche celle qui doit jouer Simone de Beauvoir, dont il est devenu secrètement amoureux. Alors là, c'est vraiment drôle, notamment quand on passe vraiment à la comédie musicale et que Sartre et Simone de Beauvoir chantent. Là, franchement, c'est vraiment hilarant. Les autres parties sont plus ou moins drôles, certaines franchement réussies, d'autres un peu moins, je ne vais pas les passer toutes en revue, il y en a 3 ou 4 en fait. Globalement, on sourit parfois à ce film choral, il ne faut pas chercher trop de fond là-dedans, hein, même si on peut trouver des thèmes comme la rédemption par l'art, hein, l'art c'est ici la poésie, le théâtre, mais est-ce que c'est vraiment si important que ça, ce thème-là ? Oui, peut-être, oui, c'est pour faire sérieux dans les interviews. En fait, il s'agit surtout de filmer des personnages agissant comme on ne l'attend pas, hein, puisque ce sont des truands, en quelque sorte, des demi-sels, on va dire, plutôt que des vrais truands. Alors, ce n'est pas du tout un film à prétention sociale, hein, ce n'est pas parce que ça se passe dans le milieu des dockers d'un port du nord de la France qu'il y a une prétention sociale. Donc, du tout, c'est juste une fantaisie qui assume un ton particulier, qui propose une galerie de personnages un peu paumés, un peu dépassés. C'est un ton absurde, voilà, et ce n'est pas désagréable, mais ce n'est pas non plus extrêmement marquant. Bon, ça peut se voir, mais si on le rate, ça n'est pas non plus l'échec de sa vie. Voilà, hein, cette musique ne joue pour personne, donc méga CGR. Allez-y pour la faire plaisir. Et Pathé Quinconce, je dis allez-y pour la faire plaisir parce qu'ils m'ont avoué qu'il y avait des séances, ils étaient obligés de couper parce qu'il n'y avait personne dans la salle.
Ah.
Couper là, voilà. Mais bon, je répète, ce n'est pas du tout un film. C'est un film qui aurait pu se retrouver au cinéaste, en fait. Hein, voilà.
Plutôt, oui.
Bien. Eh bien, justement, dans cette musique ne joue pour personne, on entend plusieurs chansons françaises. Et là, ça, c'est une pépite, parce que je n'avais jamais entendu France Gall chanter cette chanson. Ça s'appelle « J'entends cette musique » et c'est une adaptation de l'adagio d'Albinoni. Mais oui, l'adagio d'Albinoni, qu'on entend d'ailleurs dans le film, eh bien là, c'est une adaptation en version chantée par France Gall. Voilà, c'est vraiment une rareté, parce que moi, je connais assez bien France Gall, l'œuvre
ouais,
France Gall. Et là, « J'entends cette musique », ça, je ne l'avais jamais entendu. Voilà,
moi,
ça va être une première sur Radio Alpa.
J'entends cette musique, cette douce musique qui me répète toujours, il arrivera le jour où je l'aimerai à la saison de mai.
J'entends cette musique, France Gall, c'est la chanson qu'on entend intégralement d'ailleurs sur le générique de fin du film Cette musique ne joue pour personne, c'est France Gall avant Michel Berger. Hein, ça, c'est France Gall des sucettes à l'anis et des choses comme ça.
Et du bébé requin.
Voilà, exactement. Flag Day. Flag Day, c'est un film qui vous est proposé par les cinéastes avec en général deux séances par jour. Pas en général, avec deux séances par jour. Et également au Pâté Quinconce. C'est un film de Sean Penn. Hein, Pierre m'a bien dit comment il fallait prononcer. On ne dit pas Sean, mais Sean.
Ah oui, absolument.
Voilà. D'accord. Oui. Sean Penn. Alors Sean Penn, il est connu comme acteur, bien entendu, mais c'est aussi un réalisateur, producteur américain. Il est né en 60. Et en tant que réalisateur, on lui doit en 90 The Indian Runner avec Viggo Mortensen et David Morse, 1995 Crossing Guard avec Jack Nicholson, Angelica Houston, David Morse, 2001 The Pledge avec Jack Nicholson, Robin Wright, 2017 Into the Wild avec Emile Hirsch et William Hurt, et 2017 The Last Face avec Charlize Theron et Javier Bardem. Alors, Flag Day, ça dure 1h48. Au cinéaste, bien entendu, il n'y a que la version originale. Au Pâté Quinconce, il doit y avoir les deux, version originale et version française. Voilà, John Vogel était un personnage hors pair. Enfant, sa fille Jennifer s'émerveillait de son magnétisme et de sa capacité à faire de la vie une grande aventure. Il lui a beaucoup appris sur l'amour et la joie, mais elle va découvrir sa vie secrète de braqueur de banque et faussaire. Tiré d'une histoire vraie, Flag Day est le portrait d'une jeune femme luttant pour guérir les blessures de son passé, tout en reconstruisant sa relation père-fille. Une revue de presse très 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 contrastée, hein. Vous allez voir, tout le monde n'a pas aimé, loin de là. Le Parisien, à l'arrivée, Sean Penn signe avec Flag Day un film fort, émouvant, magnifique, tant sur la forme que sur le fond, déchirant par moments, très enlevé à d'autres, et révèle une exceptionnelle actrice débutante, Dylan Penn, la fille du réalisateur et de Robin Wright. Gilles Kerdreux dans West France. Le film utilise parfois des ficelles un peu grosses, mais largement rattrapées par la prestation de Dylan Penn, qui s'avère une excellente artiste, actrice même. François Forestier, Nouvel Ops, ou plutôt L'Ops, l'électricité et l'affection entre Sean Penn et sa fille Dylan sont palpables, et la présence de Hopper Jack Penn, le fils, ajoute une certaine émotion à ce drame familial qu'on regarde avec indulgence. Philippe Gage, Le Point, malgré quelques longueurs, Flag Day est un beau film, héritier direct du nouvel Hollywood des 70s, gorgé de belles âmes en perdition sur fond d'Americana éblouissante. Marie Sauvion dans Télérama, malgré des affecteries de mise en scène l'orient en vain le cinéma de Terrence Malick, on peut trouver un charme mélancolique à cette histoire de rendez-vous éternellement raté entre un escroc et sa fille. Yannick Veuly, Paris Match, le montage fragmenté avec une voix off qui imite mal Terrence Malick peine aussi à construire un vrai récit, et il faudra attendre que la narration se recentre sur les deux personnages principaux pour que l'émotion affleure. Simon Rieu dans Écran large, décousu, incertain et confus, le dernier film de Sean Penn ne renoue jamais avec la maestria de ses premières créations, reste un écrin dans lequel Dylan Penn peut faire élégamment étal de son talent. Ariel Schweitzer dans Cahier du cinéma, Flag Day est miné par ses effets de manche, tremblement et changement d'axe incessant et gratuit de la caméra, et grevé par la performance de Sean Penn qui, dans le rôle du père, positionné en martyr hollywoodien, prêtant son corps à une interminable série de maltraitances qui suscitent gesticulations et grimaces. Olivier de Bruyne dans Marianne, hélas, cette histoire de paternité blessée s'abîme dans les clichés et les surenchères larmoyantes, une famille peu recommandable. Et on termine avec Frédéric Foubert dans Première, Penn s'égare dans ses mosaïques, prenant à peine le temps de caractériser ses personnages autrement que par des raccourcis faciles, et ne trouvant jamais la dimension iconique appelée par le script. Vous voyez, c'est très très partagé. Ce film est proposé, je le répète, au cinéaste en version originale et au Pâté Quinconce. Donc, vous l'avez compris, c'est inspiré d'une histoire vraie. C'est la difficile et douloureuse relation entre un père aimant, mais irresponsable, avec sa fille, qui, durant toute son enfance et adolescence, a dû subir les conséquences de cette vie dans une famille dysfonctionnelle, donc avec des hauts et des bas en permanence. Le tout dans l'Amérique du Middle West, dans les années 70-80. Alors donc, on a un père un petit voyou, souvent absent. En fait, il est présent quand ça l'arrange, voilà, hein, tout simplement. Et puis, on a en face un frère et une sœur qui sont totalement brinquebalés entre leur mère et les beaux-pères, donc les compagnons de cette mère. Et épisodiquement, ce père qui finit par échouer en prison pour une longue peine parce qu'il a commis un braquage, voilà. Donc, le film s'intéresse surtout au parcours chaotique de Jennifer. Donc, Jennifer, c'est la fille qui finira quand même par s'en sortir en devenant journaliste après avoir surmonté bien des difficultés. Voilà, donc c'est filmé par Sean Penn, qui joue donc le rôle du père, de ce père loser, fou d'amour, mais maladroit et torturé, aux côtés de sa propre fille, Dylan Penn. Alors là, c'est la vraie révélation du film. Elle est très, très juste, dans un rôle complexe et évolutif au cours du film, dans cette relation tumultueuse. Alors la mise en image, oui, que je rejoins certains critiques, c'est saccadé, c'est confus, ça multiplie les flashbacks. Ça mêle de fausses images personnelles et les images du film. Mais bon, c'est sans doute une façon volontaire de la part de Sean Penn d'illustrer le désordre de la vie de ce John Vogel. Voilà, donc c'est un film sur des personnages torturés, en proie à leurs démons intérieurs, aux relations complexes entre eux. Et un film quand même qu'il faut reconnaître gagne en intensité sur la fin quand le film se recentre sur la relation entre le père et sa fille devenue adulte et journaliste. C'est pas un grand film absolument mémorable, c'est juste un drame familial. Un drame familial de plus dont l'intérêt peut résider dans le fait qu'il s'agit d'une histoire vraie. Bon, alors est-ce que Pierre est aussi sévère que moi ou est-ce qu'il a plus
d'avantages? Non, je pense avoir fait le bon choix pour oui. cette semaine, parmi les sorties de cette semaine. Ce film, tu l'as dit, est tiré d'une histoire vraie. Il réunit à l'affiche le père, Sean Penn, sa fille, Dylan Frances Penn, mais aussi son fils, Hopper Jack Penn. Alors, en quelque sorte, c'est un film familial.
Hein. Exactement.
Un film où l'on voit de l'aventure, Sean Penn joue le rôle d'un truand hors pair. Un film dramatique où l'on voit sa fille, qui joue aussi sa propre fille dans le film d'ailleurs, rechercher une relation avec son père, difficile. Ne dit-elle pas à un moment de désespoir, mon père, enfin en français, hein, mon père n'a jamais pu rattraper sa liberté. Elle s'adresse au spectateur à ce moment-là. Des moments plus drôles aussi quand le père promet à sa fille une Jaguar et qu'il téléphone au concessionnaire. Là, c'est plutôt rigolo. En un mot, un film qui m'a beaucoup plu et que je conseille. Bon, c'est peut-être pas ton avis. Dernière chose, comme la semaine dernière avec Stillwater, ce film a été présenté à la fois au Festival de Cannes et au Festival de Deauville, le fief du cinéma américain.
Exactement. Donc, ça s'appelle Flag Day. C'est proposé au Pathé Quinconce et au cinéaste. Au cinéaste Les Intranquilles, uniquement au cinéaste, un film de Joachim Lafosse, réalisateur, scénariste, dialoguiste, né en 1975. Il a commencé, comme beaucoup, par le court-métrage, je le dis à chaque fois. 2004, Folie privée, qui ne paraît pas avoir été distribué en France, peu importe. 2006, Ça rend heureux. 2006 également Nue propriété avec Isabelle Huppert et Jérémy et Yannick Régnier. 2008 Élève libre avec Jonathan Zakaï et Yves Régnier. 2012 À perdre la raison avec Nils Arestrup, Tahar Rahim et Émilie Dequesne. 2015 Les Chevaliers Blancs avec Vincent Lindon et Louise Bourgoin. 2016 L'économie du couple avec Bérénice Bejo et Cédric Kahn. Et 2019 Continuer avec Virginie Efira, Cassé, Moté, Klein. Voilà, tous ces films, moi je les ai pratiquement tous vus. Peut-être à part le premier, Ça rend heureux, je ne sais pas. Mais bon, j'aime bien les films de Joachim Lafosse. Les Intranquilles, donc ça dure 1h58, donc 2h quoi. Hein. Leïla et Damien s'aiment profondément. Malgré sa fragilité, il tente de poursuivre sa vie avec elle, sachant qu'il ne pourra peut-être jamais lui offrir ce qu'elle désire. C'est très très résumé ça, hein. Franchement. Bon, passons. West France, Gilles Kerdre, un film d'amour et d'angoisse avec deux acteurs merveilleux, je ne les ai pas cités, c'est Leïla Bekti et Damien Bonnard. Damien Bonnard, on l'avait vu dans Les Misérables, c'est un des trois Baqueux. Marie Sauvion dans Télérama, imprévisible, fiévreux ou abattu, Damien Bonnard excelle en homme luttant pour ne pas se dissoudre dans le lithium et Leïla Bekti, constamment sur le qui-vive, bouleverse en victime collatérale. Stéphanie Belpech, Le Journal du Dimanche, une chronique qui agit telle une déflagration grâce à une mise en scène frontale et pudique et l'interprétation exceptionnelle de Damien Bonnard et Leïla Bekti, dont l'alchimie crève l'écran. Fabrice Leclerc, Paris Match, un drame impressionnant de maîtrise porté par l'instinctive Leïla Bekti, mais surtout par l'incroyable composition de Damien Bonnard, vertigineuse de précision. Première, dit Richesse, Les Intranquilles vous terrassent d'émotion, précisément car il ne sacrifie à aucune facilité larmoyante, parce qu'on le vit en immersion dans la tête de Damien, dépassé par ce qu'il vit, comme est dans celle de Leïla, refusant d'abandonner le navire malgré les tempêtes successives. Véronique Coapé, Le Monde, s'appuyant sur un duo d'acteurs au sommet de leur art, le cinéaste s'abandonne à une observation rapprochée de ses personnages. Oui, mais Didier Perron dans Libération, le film est étrangement inoffensif, comme s'il était préalablement surarmé contre le risque d'être un tant soit peu gagné par la déraison qu'il aborde un peu avec la froide pondération du psychiatre qui en a vu d'autres. Et enfin, Étienne Sorin, Le Figaro, malgré la force de l'incarnation de Damien Bonnard et Leïla Bekti, La maladie, le syndrome comme le sujet est plus fort que les personnages. Elle dévore tout, l'amour, la famille, l'existence, même dans ses moments d'insouciance. Et aussi juste que soit sa description, Les Intranquilles ne parviennent pas à transcender le cas clinique. Les Intranquilles, donc, un film proposé par les cinéastes qui ont sorti pratiquement à eux seuls plus de films que tout le reste des cinémas du Mans. Donc, Les Intranquilles, deux séances par jour pour Les Intranquilles. Damien est un artiste peintre reconnu. Il est l'époux de Leïla. Leïla, elle est restauratrice de meubles anciens et ils ont un petit garçon adorable. Voilà. Le bonheur serait total si ce n'est le caractère fantasque de Damien qui alterne phases d'excitation et d'euphorie créatrice qui le mène jusqu'à l'épuisement et puis phases d'abattement sans rien pouvoir contrôler. Bref, c'est ce qu'on appelle un bipolaire. Voilà, un maniaco-dépressif bipolaire. Ce qui évidemment rejaillit sur l'ensemble de la famille. Il n'est pas question d'ergoter ici sur la qualité d'interprétation de Damien Bonnard et Leïla Bekti. Les deux sont remarquables, toutes les critiques l'ont souligné. Je suis d'accord là-dessus. En revanche, moi, je suis quand même moins emballé que la grande majorité des critiques sur le film lui-même. Déjà, beaucoup trop long pour mon goût, hein, 2 heures, parce que je trouve que le film multiplie certaines scènes inutiles ou alors beaucoup trop étirées en longueur. Sur le thème donc de la bipolarité, de ses conséquences, autant pour celui qui en est atteint que pour ses proches qui sont guettés par l'épuisement, dont les nerfs sont mis à rude épreuve, eh bien, le film, c'est un drame intimiste. Alors oui, il est sans doute difficile de vivre cet ascenseur émotionnel permanent, fait de haut et de bas, qui arrive sans prévenir. Mais, personnellement, je trouve quand même qu'il y a des maladies qui sont plus invalidantes et qui pousse davantage à la compassion, parce que peut-être que dans le film, c'est peut-être édulcoré, mais bon, oui, mais il me semble qu'il y a des maladies beaucoup plus invalidantes, oui. Donc au final, le film ne m'a que convaincu partiellement, mais évidemment, si on est concerné de près ou de loin par cette psychose, eh bien, on sera forcément plus sensible que moi à l'histoire. Donc un film sur une famille confrontée à ce grave problème, et ce problème mettant en péril son équilibre, impacte sa vie au quotidien. Un film qui, je le répète, vaut quand même surtout par son duo d'interprètes. Bon, c'est une histoire d'amour, voilà, malgré tout.
On peut dire un petit mot sur la bipolarité, si oui. Les auditeurs ne savent pas. Alors, ça veut dire que, de temps en temps, l'homme est très heureux,
oui.
Expansif,
oui.
Et puis des moments où il est dépressif.
Exactement, voilà. Ben, c'est ça. Voilà, voilà. Donc il est indemne de ça, Damien, dans le film. Alors, dans le film de Samuel Benchetrit, on entend beaucoup de chansons françaises. On a entendu France Gall, une chanson que je ne connaissais pas. Maintenant, on passe à un succès connu de Christophe, succès fou, sur Radio Alpa 107.3 FM. Non, là, c'est aussi les années 70, à peu près. 70.
80, je pense,
80,
succès
bon,
fou,
80,
oui. Fou,
d'accord. Allez, hop, c'est parti, succès fou.
Elle reviendra à la tombée du jour. Je mettrai mes gants blancs, c'est mon style différent de tous les autres. Hey, ça lui plaît. Et nous danserons cha 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 avec les filles. Ça fait vraiment tout.
Christophe, succès fou, un titre que l'on entend dans cette musique ne joue pour personne. Christophe, décédé l'an dernier, inhumé au cimetière Montparnasse, et sur la tombe de Christophe, c'est un peu une incongruité, mais on sait qu'il aimait beaucoup la pétanque. Il y a une plaque de ses amis d'un club de boulistes qui a été déposée. Voilà. Bon. Guermantes, c'est un film qui vous est proposé à nouveau au cinéaste, 2 séances par jour. C'est un film de Christophe Honoré, réalisateur, scénariste, acteur, né en 70. Lui aussi, des courts-métrages au début de sa carrière, enfin un court-métrage, et puis 2001, 17 fois Cécile Cassard avec Béatrice Dalle et Romain Duris, 2003 Ma mère avec Isabelle Huppert, Louis Garrel et Emma Decaune, 2006 Dans Paris avec Louis Garrel et Romain Duris, 2007 Les chansons d'amour avec Louis Garrel et Ludivine Sagné, 2008 La belle personne avec Louis Garrel et Léa Seydoux, donc vous voyez que Louis Garrel c'est un des fidèles de Christophe Honoré. 2009, Non ma fille, tu n'iras pas danser avec Chiara Mastroianni et Marina Foïs. 2010, Homme au bain avec Chiara Mastroianni notamment. 2011, Les bien-aimés, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Ludivine Sagné. 2014, Métamorphose. 2016, Les malheurs de Sophie, mais oui, Les malheurs de Sophie, de la comtesse de Ségur avec Anaïs de Mousty et Muriel Robin. 2018, Plaire, aimer et courir vite avec Vincent Lacoste et Pierre Deladonchamp. Et 2019, Chambre 212 avec Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay et Vincent Lacoste. Guermantes, c'est un film long. Hein, attention, il fait 2h19, autant dire 2h20. Le synopsis, c'est très simple. Paris était 2020. Une troupe répète une pièce d'après Marcel Proust. Quand on lui annonce soudain que le spectacle est annulé, elle choisit de continuer à jouer malgré tout pour la beauté, la douceur et le plaisir de rester ensemble. Cette troupe, c'est la troupe de la Comédie française. Je ne vois pas pourquoi on ne le signale pas. Enfin, peu importe. L'Humanité, Marjorie Sirac, dans L'Humanité, donc, une parenthèse enchantée en pleine pandémie. Sylvain Merle dans Le Parisien, on plane avec cette troupe qui ne se résout pas à la séparation et continue à vivre selon sa devise « Simul et singulis », être ensemble et être soi-même. Anne Diatkine, Libération, Christophe Honoré multiplie les décrochages pour réussir l'un de ses films les plus libres, les plus drôles, les plus impromptus et les moins cadenassés, qu'on s'intéresse ou non à la Comédie française ou au théâtre en général. La rédaction de Marianne, il y a du panache et du talent devant la caméra d'Honoré, qui rebondit ici avec brio en transformant un coup du sort en coup de maître, avec un film hors norme, d'une vitalité réjouissante, sans jamais se prendre au sérieux, avec une belle dose d'autodérision. Il nous invite en toute sincérité du côté de la troupe. Télérama Louis Guichard, la vie de la communauté. Alors, les gars, voilà, Louis Guichard, donc la vie de la communauté se dévoile ainsi dans un subtil mélange de documentaire et de fiction, entre nuits partagées dans les loges, voire sur la scène, histoire d'ambition ou d'attraction, de désir ou d'amitié, de gueule de bois ou d'ivresse. Thomas Borès dans Première, Guermantes est un film intelligent, rafraîchissant et enivrant. Étienne Sorin dans Le Figaro, la chronique d'une troupe en pleine pandémie, émouvante au début et complaisante à la fin. Cécile Rodin dans La Croix, malheureusement, ce qui débute sur un mode jubilatoire, hommage à l'esprit de troupe, à sa liberté créatrice et son sens de l'improvisation, s'égare ensuite sur d'autres chemins et perd de vue son sujet. Alexis Campion, dans Le Journal du Dimanche, pas sûr que les acteurs sortent grandis, ni qu'on apprenne tant sur eux au fil de ce banquet longué, complice et serti de gags plus ou moins réussis, trop content de son cocon pour convaincre vraiment. Et Pascal Le Vergerot, Ouest France, Christophe Honoré n'évite pas l'entre-soi dans cet étrange objet cinématographique. Son Guermantes, un témoignage intéressant de la traversée de la crise sanitaire par les artistes, n'en demeure pas moins long et brouillon. Voilà, Guermantes. Alors, je vous signale que Guermantes, vous pouviez le voir à la télévision sur la 5 vendredi dernier. Et il doit encore toujours être possible de le revoir en replay, si vous avez la possibilité de le voir en replay, parce que c'est un film qui est proposé par la télévision avant d'être sorti au cinéma. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Donc, Guermantes, eh bien, c'est une sorte d'essai cinématographique. C'est un faux documentaire sur la troupe de la Comédie française. Celle-ci, donc, vous l'avez compris, devait jouer sous la direction de Christophe Honoré, un spectacle consacré à Marcel Proust. Mais la crise du Covid remet en question le projet qui ne verra finalement pas le jour sur scène. Malgré cela, eh bien, la troupe décide de continuer les répétitions. Et c'est ce que filme Christophe Honoré, tout en accordant une large place à la vie quotidienne de ses comédiens. Et le tout filmé sur quelques jours, 3-4 jours. Le film, donc, nous livre un mélange de ces répétitions, de digressions diverses et variées sur la vie des comédiens, mêlant du texte de la pièce prévue, des scènes de la vraie vie, c'est-à-dire la vie que vivent les comédiens. Ça semble en grande partie improvisé, mais en partie écrit également, bien sûr. On ne sait évidemment pas ce qui relève de l'un ou de l'autre. C'est intéressant parce que cela montre le travail de répétition des acteurs. Ça montre également ce qui fait la vie d'une troupe. Mais était-ce bien indispensable d'en faire un film? Bon, oui, après tout, pourquoi pas, hein? Ne serait-ce que pour montrer une nouvelle fois la qualité de ces acteurs de la comédie française qui sont vraiment exceptionnels, tous par leur talent. Ça montre également leur façon de travailler, puis cet esprit de troupe qui en est une des particularités. Le film pose ainsi plein de questions sur le travail d'un metteur en scène, celui des comédiens, tout en restant d'ailleurs parfaitement accessible au grand public. C'est même drôle par moment, hein. Oui, absolument. Laurent Lafitte, par exemple, assez drôle par moment. Bref, c'est une curiosité, c'est pas du tout déplaisant, mais il faut accepter de 2h20, parce que c'est quand même un peu long. Moi, je l'ai vu, non pas au cinéma, mais je l'ai vu en l'ayant enregistré à la télévision, et donc en le voyant deux fois, c'est tout à fait supportable. Maintenant, 2h20 d'un seul coup, je ne sais pas. Guermantes, donc, c'est proposé par le cinéma Les Cinéastes. Voilà. Dernier film à l'affiche cette semaine pour les nouveautés, Candyman, proposé par le Méga CGR et par le Pathé Quinconce. Je ne suis pas du tout sûr, mais je ne crois pas d'ailleurs qu'il y a de version originale pour ce film, Candyman. 1h30, interdit aux moins de 12 ans. C'est un film réalisé par Nia da Costa, réalisatrice, je pense. Nia, c'est un prénom féminin, scénariste américaine, et en 89, qui avait réalisé auparavant Little Woods, directement envoyé en VOD. Nia da Costa est la réalisatrice. D'aussi loin qu'ils s'en souviennent, les habitants de Cabrini Green, une des cités les plus insalubres en plein cœur de Chicago, ont toujours été terrorisés par une effroyable histoire de fantômes passant de bouche à oreille, où il est question d'un tueur tout droit sorti de l'enfer, avec un crochet en guise de main qui pourrait apparemment être convoqué très facilement par qui l'oserait, rien qu'en répétant son nom 5 fois devant un miroir. 10 ans après que la dernière des tours de la cité ait été détruite, la cité de Cabrini Green, l'artiste peintre Anthony McCoy et sa petite amie Cartwright, directrice de galerie d'art, emménageant dans un appartement luxueux sur le site de l'ancienne cité, aujourd'hui complètement nettoyée et reconvertie en résidence réservée à une classe sociale jeune et aisée. Voilà, alors que la reine d'Anthony est au point mort, il rencontre par hasard un ancien habitant de la cité d'avant sa rénovation qui lui raconte ce qui se cache réellement derrière la légende de Candyman. Voilà, donc ça c'est le synopsis. La revue de presse, Caroline Olivier dans 20 minutes, cette nouvelle version très réussie, oui c'est un remake, je vais vous le préciser ensuite, cette nouvelle version très réussie se révèle oppressante à souhait, tout en délivrant un message de tolérance. Ah bon ? Simon Rio dans Écran large, Nia da Costa s'inscrit avec fidélité et perversion dans la mythologie établie par le premier film, tout en étendant puis déclinant son discours sociétal avec une hargne étonnante. Portée par une mise en scène élégante et joliment inquiétante, le film n'assume toutefois pas assez la trivialité de son monstre, ainsi que la violence ambivalente et spectaculaire que son concept appelle. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, le récit devient politique en se servant du croque-mitaine pour dénoncer le racisme ordinaire et les violences policières, tout en distillant une mise en scène intelligente et visuellement sublime avec un théâtre d'ombre et un jeu de miroir pour perpétuer le mythe. Emmanuel Spalacenta dans Cinématiseur, une réactualisation de la légende Candyman pour la société américaine d'aujourd'hui qui existe entre le littéral et l'allégorique. Nicolas Didier dans Télérama, même brouillon, le pamphlet atteint sa cible en fustigeant un siècle de racisme aux États-Unis, du lynchage de descendants d'esclaves aux violences policières actuelles. François Léger en première, Candyman oublie la tension et enchaîne mollement les scènes de meurtre stylisées, gentrifiées, inopérant dans sa quête du frisson ultime, de la black horror programmatique, pas si mal emballée, mais essorée par son manque de subtilité. Camille Nevers dans Libération, ce Candyman se fait surtout une publicité négative, poussant à revoir l'œuvre d'origine afin d'en vérifier la belle pérennité, la solidité et l'intuition que cette croûte n'est qu'une amphigourique ressucée. Ouais, voilà, Candyman, donc c'est un remake prétexte d'un film des années 90. Alors, ce Candyman reprend le gimmick original. Le gimmick original, c'est, on vous l'a dit dans le synopsis, vous prononcez 5 fois le nom du Candyman devant un miroir et cet horrible tueur, avec un crochet à la place d'une main, apparaît et trucide tout ce qui est apporté de crochet, justement. Alors, ce Candyman s'inscrit dans une nouvelle veine du cinéma d'horreur américain. Alors, c'est quoi cette nouvelle veine? Ça consiste à se saisir du genre, le cinéma d'horreur, pour traiter en sous-texte un problème politique. Et le problème politique, ici, c'est le racisme des Blancs. Exactement comme, par exemple, Get Out, qui est un petit peu l'initiateur du genre. Et d'ailleurs, c'est pas tout à fait un hasard, parce que Jordan Peele, qui était le réalisateur de Get Out, est ici le scénariste et le producteur. Alors, pourquoi pas, après tout, utiliser le cinéma d'horreur à des fins politiques? Ça s'est déjà fait à d'autres périodes, mais encore faudrait-il que l'histoire soit un peu cohérente. Alors, certes, le film reprend les codes du film d'horreur, avec moult égorgements bien sanglants, scènes horrifiques à profusion, mais sans être vraiment convaincant, parce que le film multiplie les digressions juste pour filmer ce genre de scène. Par exemple, il y a une scène qui met en scène des adolescents dans un lycée qui n'a pas grand-chose à voir avec le reste du film, sauf si on veut bien considérer que ce sont des filles qui sont blanches et qui se font massacrer pour avoir provoqué l'apparition de ce Candyman noir. Voilà, donc on est toujours dans la thématique sur le racisme. Le film, c'est aussi l'occasion éventuellement de parler de l'art contemporain, de ses impostures, de parler aussi de la spéculation immobilière provoquée par les promoteurs blancs, bien entendu, et surtout de dénoncer le racisme systémique des Blancs envers la communauté noire. Alors, racisme à l'origine des violences policières, à l'origine également de la volonté d'enfermer les Noirs dans des ghettos, que sais-je encore, voilà, donc c'est pas forcément très très subtil, mais bon, voilà, le problème c'est que l'histoire part dans tous les sens, manque de clarté, bon, alors dommage, parce qu'il y a quand même des qualités, certains critiques l'ont souligné, dans la façon de filmer tout cela, il y a quelques petites trouvailles de mise en scène, notamment des séquences en ombre chinoise, mais au total, on a quand même une belle impression de vrai gloubi-boulga, hein. C'est un peu, pas terrible, terrible, voilà. Candyman, uniquement réservé aux amateurs de films d'horreur, et encore, c'est pas sûr qu'ils seront tout à fait satisfaits.
Voilà. Non, j'aime pas l'horreur.
Eh bien, je sais bien. Allez, avant de vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine, un titre que l'on entend dans le film de Sean Penn, Les Intranquilles, c'est Cat Power, et c'est Dreams.
Flag Day.
C'est le titre qu'on entend au début du film, pratiquement, dans les premières images du film. Cat Power, Dreams.
Okay. Make you mine, taste your lips of wine.
Dream Cat Power, un titre qu'on entend au tout début du film de Sean Penn, les Flag Day. Les films à l'affiche de la semaine prochaine, eh bien, on va déjà annoncer que si vous nous écoutez en direct ce soir au cinéaste, dans les rendez-vous du cinéma italien à 19h30, on vous propose en séance unique la Dea Fortuna. Donc si vous aimez le cinéma italien, 19h30 aujourd'hui, 1er octobre. Sinon, dimanche à 15h30, c'est quoi ce papy dans le cadre de Cinéma Différence, un film sorti cet été. Comédie, moi je l'ai vu, bon, je dis rien. Voilà. Et puis là aussi, très curieux, mardi à 14h, je ne sais pas ce que c'est que cet horaire, 12 ans d'âge dans le cadre de la Semaine Bleue. Je ne sais pas trop ce que c'est que cette Semaine Bleue, mais 14h, je ne sais pas trop qui va aller à 14h voir ce film-là, à part des retraités. Voilà, les avant-premières, évidemment, le James Bond sort mardi soir à l'avant-première un peu partout, au Méga Cégère, au Pathé Quinconce, au Colisée, il y a de la VO, il y a de la VF, par exemple, au Colisée à 19h30, il y a de la VO, au Pathé Quinconce, c'est à 19h qu'il y a de la VO, et puis au Méga Cégère, vous pouvez le voir en salle Ice et en salle normale. C'est le film qu'attendent avec impatience tous les exploitants pour se refaire la cerise. Le film a très 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 bien démarré au Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni, c'est la patrie de James Bond. Est-ce que ça va marcher en France? On peut espérer. En tous les cas, les exploitants l'attendent avec impatience.
Alors le film est long quand même.
Il est 2h45, ouais. Et oui, 2h45. Bon, les autres films à l'affiche la semaine prochaine, Mon Légionnaire, un film avec Louis Garrel et Camille Cotin, Tralala, la comédie musicale des frères Larieux, d'ailleurs, les deux frères Larieux viendront, je crois, le présenter le 10 octobre, dimanche après-midi, 10 octobre, au cinéaste. Il y aura aussi Petite Sœur au cinéaste, un film de Véronique Raymond et Stéphanie Cluat. Ah, j'ai oublié une avant-première aussi mardi 7 à 20h au Pathé, un film qui s'appelle Julie en 12 chapitres, mardi 7 au Pathé, et le film sera proposé la semaine d'après au cinéaste. Voilà les films à l'affiche cette semaine. Alors je pense que Pierre vous recommande.
Bah, j'ai essayé d'aller voir James Bond quand même. La durée me fait toujours un petit peu peur. Mais...
Oui, mais là, dans les films qu'on a vus cette semaine, tu recommandes Flag Day quand même.
Ah, bah Flag Day, oui.
Voilà, il recommande Flag Day. Moi, il n'y en a pas un qui ressort vraiment du lot. Moi, je vous dirais bien d'aller voir Tout s'est bien passé, que j'avais adoré la semaine dernière, par exemple. Mais aucun n'est absolument insupportable dans les films, sauf peut-être Candyman, qui vraiment, bon, ne m'a pas tellement emballé. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter une excellente semaine. Nous allons vous souhaiter une excellente semaine cinématographique et on se retrouve la semaine prochaine pour Clap sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.
Au revoir.